Chapitre 37e. Songe de Roland. La belle Corisande fut baptisée le lendemain dans la cathédrale de Valence. Elle embrassa sincèrement la religion de son amant et de la Vierge Marie, qui l'avait sauvée d'un si grand péril à Grenade. Roland ne la quittait plus et semblait craindre à tout instant de perdre une seconde fois ce précieux trésor. Elle était fière, elle était aimée, elle aimait, elle était heureuse. Elle allait avoir pour époux le plus brave chevalier de l'univers et le plus fidèle. Elle ne voyait plus dans l'avenir que des sujets de joie. C'est à ce moment que la divine Providence, dans ses impénétrables desseins, voulut mettre fin à son bonheur et à la vie du comte d'Angers. Le perfide dessein de Ganelon n'avait que trop réussi. Charlemagne, confiant dans la parole de Marsile et dans sa propre puissance, reprit le chemin des Pyrénées. À l'avant-garde marchaient l'empereur lui-même et les pairs de France. Au corps de bataille étaient placés le butin et les bagages. L'arrière-garde était commandée par Roland, toujours chargé du poste le plus dangereux. Près de Roland chevauchait la belle Corisande. C'est dans cet ordre que l'armée chrétienne s'approcha de la fameuse vallée de Roncevaux. Déjà, quelques signes faciles à reconnaître annonçaient l'approche des Sarrasins. Charlemagne s'en aperçut, mais pressé de rentrer dans ses états, et croyant le danger peu redoutable, il négligea l'arrière-garde. Cependant, il pressa Corisande de prendre avec lui les devants. Qui pourrait dire combien le tendre cœur de cette aimable princesse fut déchiré de cette courte mais cruelle séparation? Les deux amants ignoraient qu'ils ne devaient plus se revoir en ce monde. Mais un pressentiment funeste les avertissait de la catastrophe prochaine. Corisande ne pouvait s'arracher des bras de son amant. Elle avait fait des songes effrayants. Elle avait cru voir Roland percé de 1000 coups d'épée, entouré d'un monceau d'ennemis, mais vivant encore, et lui tendant les bras avant de rendre le dernier soupir. Le bon chevalier, si ferme en toute rencontre, se sentait lui-même attristé par des présages sinistres. Il eut besoin de tout son courage pour affermir celui de Corisande et la forcer à rejoindre Charlemagne. « Nous partons les premiers, » dit le vieil empereur, « mais nous t'attendrons à quelque distance du défilé, toujours prêt à te secourir si on t'attaque. Au reste, je te laisse Olivier et le bon archevêque Turpin avec 20 000 hommes. » « Avec eux, » dit Roland, « je ferai la conquête du monde. » Enfin, Charlemagne partit, emmenant avec lui Corisande qui s'attachait à Roland et voulait vivre ou mourir avec lui. Mais le héros, qui connaissait sans les craindre les hasards des batailles, ne voulut pas le souffrir. Il la serra une dernière fois sur son cœur et, se sentant faiblir, il détourna la tête. Quand toute la suite de Charlemagne eut défilé, le comte Ganelon partit le dernier. Il riait d'un méchant sourire en regardant Roland. « Adieu, comte, et bonne chance. J'entends dire que les bataillons sarrasins sont plus nombreux sur la route que les hôtelleries, mais rien ne résiste à un héros tel que toi. »« Je réponds de tout, » répliqua Roland, « mais si l'arrière-garde était en danger, je sonnerai du cor, avertis Charlemagne que c'est le signal de revenir sur ses pas. » À ces mots, le traître partit, tout joyeux de sa trahison, et Roland s'enferma pendant quelques heures dans sa tente pour rêver plus aisément à Corisande. « Olivier, » dit le bon archevêque Turpin, « que penses-tu de ce Maillancet ? Il avait l'air de rire en grinçant des dents. Est-ce la coutume chez les honnêtes gens ?»« Si je le croyais, » dit Olivier, « que ce pâle justiciaire eût envie de nous jouer un tour de son métier, je galoperais sur sa trace et je ferais de sa tête une offrande à saint Jean-Baptiste le décollé. » « Que penses-tu, » continua Turpin, « de notre ami Roland ?»« Je pense, » répliqua Olivier, « que j'aimais plus de 30 Saxonnes, qui étaient hautes comme des lances, grosses comme des barriques et tendres comme des agneaux rôtis, et que mes tendres Saxonnes toutes réunies ne m'ont pas donné autant de bonheur qu'à Roland un seul baiser de sa Corisande. » « Pauvre Olivier, » dit le bon archevêque, « est-ce que 30 lapins blancs font un cheval noir ?» À force de rêver à sa belle princesse, Roland s'était endormi. Il se vit lui-même en songe. Il était seul dans la vallée de Roncevaux. Ses amis avaient disparu. Autour de lui, les Pyrénées, soulevées par un tremblement de terre, s'écroulaient et l'enveloppaient d'une muraille circulaire et inaccessible. Tout à coup, le tonnerre mugissait dans le lointain. Une nuit profonde enveloppait la terre. Des éclairs sillonnaient la voûte du ciel. À la lueur de ces éclairs, il vit, sur le sommet de l'immense muraille formée par les Pyrénées, Guéphéros et Don Bernard de Carpio qui se le montraient en riant. Derrière eux, Satan lui-même attisait l'orage. L'air devenait lourd et brûlant. Roland ne respirait plus qu'avec peine. Tout à coup, il s'éveilla. Olivier était devant lui. « Eh bien, dit Olivier, partons-nous. La nuit est venue, favorable aux embûches. Charlemagne est déjà loin, en avant. »« En avant, répéta le comte d'Angers. Et toute l'arrière-garde de Charlemagne entre avec eux dans le val de Roncevaux.